Voici une question dont la réponse est la clé pour avoir une vie transformée. De quelle manière est-ce qu'un pécheur perdu peut revenir à Dieu? La parole de Dieu va nous donner une réponse que tous ont besoin d'entendre, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Quel privilège on a dans notre pays d'avoir la liberté de lire, d'entendre prêcher et de mettre en pratique la parole de Dieu. Je crois qu'on a tendance à prendre ce privilège pour acquis. Oh, que Dieu nous aide à apprécier ce cadeau qu'il nous fait. Et puissions-nous en profiter pour utiliser ce privilège, pour aimer notre Dieu et le faire connaître à tous ceux qui nous entourent. Voici les questions qu'on va poser aux Saintes Écritures aujourd'hui. Est-ce que Dieu tient compte de notre connaissance et de notre ignorance quand il nous châtie? Est-ce que le peuple d'Israël a rejeté Dieu du temps de Samuel? Est-ce que les chrétiens doivent s'attacher à la parole de Dieu? De quelle manière est-ce qu'un pécheur peut revenir à Dieu? Est-il important de se souvenir des bontés de Dieu envers nous? Si un chrétien a une mauvaise conduite, est-il possible que ça serve de prétexte à ceux qui sont rebelles envers Dieu? Demeurez des nôtres. Le Seigneur va nous enseigner de belles vérités par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais avant tout, demandons à Dieu de nous éclairer, de nous aider à bien comprendre ce précieux enseignement. Prions. Oui, Seigneur, on a besoin de ta lumière. On a besoin que tu éclaires ta sainte parole dans nos cœurs pour qu'elle fasse effet. Enseigne-nous, mon Dieu. Viens parler à nos cœurs. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, Dieu a appelé Samuel afin que celui-ci devienne son prophète. Israël combattit les Philistins, et après une défaite, on fit venir l'arche de Dieu dans le camp. C'était une façon superstitieuse de mettre Dieu de leur côté. Cependant, Dieu livra l'arche entre les mains des Philistins qui vainquirent Israël. Le prêtre Élie mourut en apprenant la capture de l'arche. Les Philistins placèrent l'arche dans leur temple, à côté de leur dieu, Dagon. L'Éternel jeta l'idole face contre terre à deux reprises et frappa les Philistins d'hémorroïdes. À chaque ville où les Philistins apportaient l'arche, Dieu frappait les habitants de la ville. Dieu ne donne jamais sa gloire à qui que ce soit. Il a frappé son peuple parce qu'il a pensé obtenir sa protection d'une façon magique ou superstitieuse, et non conformément à sa parole en s'y soumettant. Ensuite, il a frappé les Philistins et leur idole Dagon afin qu'ils ne pensent pas qu'il est qu'un dieu parmi tant d'autres. Maintenant, les Philistins ne demandent qu'à se débarrasser de l'arche de Dieu. Mais comment? Chers amis, débutons notre lecture, 1 Samuel, chapitre 6, versets 1 à 4. L'arche de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins, et les Philistins appelèrent les prêtres et des devins, et ils dirent, « Que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. » Ils répondirent, « Si vous renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité, alors vous guérirez, et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. » Les Philistins dirent, « Quelle offrande lui ferons-nous? » Ils répondirent, « 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. » Afin de savoir comment renvoyer l'arche de l'Éternel, les Philistins consultèrent leurs prêtres et leurs devins. Ils ont recommandé de retourner l'arche avec une offrande. Et l'offrande prescrite démontre l'abomination de leur culte à leur Dieu. C'est probablement à cause de cela que Dieu a débarrassé le pays des Philistins éventuellement. La terre promise se trouvait à un carrefour important, et ses habitants avaient une influence sur le monde entier. Dieu a donné aux Philistins l'occasion de venir à lui, mais ils ne la prirent pas. Ils offrirent 5 souris d'or et 5 tumeurs d'or à Dieu. Verset 11. Ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel et le coffre avec les souris d'or et les figures de leurs tumeurs. Dieu tient compte de notre connaissance et de notre ignorance en châtiant. Dieu ne leur reprocha pas d'avoir monté l'arche sur un char, car ils ignoraient que Dieu l'avait interdit. Israël, par contre, le savait, et plus tard, lorsque David et le peuple transporteront l'arche sur un char, Dieu frappera Uzza, un conducteur du char, pour avoir touché l'arche lors de son déménagement. Poursuivons la lecture, verset 12. Les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh. Elles virent toujours la même route en mugissant, et elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins allèrent derrière elles jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Les Philistins durent reconnaître la main de Dieu. Ces vaches furent choisies par ce qu'elles allaitaient. Elles agissaient à l'encontre de leur instinct. Ceci prouve que c'est l'Éternel qui était la cause des ennuis des Philistins et non le hasard. Versets 13 à 15. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Le char arriva dans le champ de Josué de Beth-Shemesh et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel et le coffre qui était à côté d'elle et qui contenait les objets d'or. Et ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les gens de Beth-Shemesh offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Les Israélites ne gardent pas pour eux rien de ce qui provient des Philistins. C'est un geste très louable. Verset 16. Les 5 princes des Philistins, après avoir vu cela, retournèrent à Écron le même jour. Les princes repartent heureux de ne plus avoir la possession de l'arche, mais c'est au tour des Israélites d'avoir des ennuis sérieux. Versets 17 à 19. Voici les tumeurs d'or que les Philistins donnèrent à l'Éternel en offrande pour le péché. Une pour Asdod, une pour Gaza, une pour Ascalon, une pour Gath, une pour Écron. Il y avait aussi des souris d'or, selon le nombre de toutes les villes des Philistins, appartenant aux 5 chefs, tant des villes fortifiées que des villages sans murailles. C'est ce qu'atteste la grande pierre sur laquelle ont déposé l'arche de l'Éternel, et qui est encore aujourd'hui dans le champ de Josué de Beth-Shemesh. L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel. Il frappa 50 000. 70 hommes parmi le peuple, et le peuple fut dans la désolation, parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. L'arche devait être placée dans le lieu très saint du tabernacle. Lorsque l'arche était transportée dans le désert, elle était recouverte et seulement certains Lévites pouvaient la porter sur leurs épaules. Israël savait cela, donc le peuple fut frappé par Dieu. Verset 20. Les gens de Beth-Shemesh dirent, « Qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint? Et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous? » Ce n'est pas parce qu'ils ont vu quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir que le peuple fut frappé. L'arche n'était qu'une boîte recouverte d'or. C'est au tabernacle, alors que l'arche était dans le lieu très saint, que le peuple pouvait s'approcher de Dieu. Et ce, par l'intermédiaire du souverain sacrificateur, le seul qui pouvait pénétrer dans le lieu saint une fois par année et avec sacrifice. Présentement, Dieu ne permet pas au peuple qui s'est détourné de lui de l'approcher. La désobéissance du peuple expose sa rébellion et ses blasphèmes. C'est pour cela que Dieu les frappe de mort. Verset 21. Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kirjath-Jérim pour leur dire, « Les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel. Descendez et faites-la monter vers vous. » Israël a rejeté Dieu. Ils veulent maintenant se défaire de l'arche. Ils invitent les habitants de Kirjath-Jérim à venir chercher l'arche. Autrement dit, le peuple n'est pas prêt à recevoir Dieu. Le peuple ne veut pas revenir vers Dieu. Sinon, l'arche aurait été replacée dans le tabernacle. Ce n'est que 20 ans plus tard que la nation d'Israël reviendra vers Dieu. Débutons la lecture du 7e chapitre du livre de 1 Samuel, versets 1 et 2. Les gens de Kirjath-Jérim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jérim. 20 années s'étaient écoulées, alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Après 20 ans, les Israélites rejettent les dieux étrangers et les Astartés pour revenir vers Dieu. Le peuple a soif de la présence de Dieu. Les chrétiens doivent s'attacher à la parole de Dieu. Je suis convaincu que les chrétiens doivent s'attacher à la parole de Dieu, les 66 livres de la Bible, du livre de la Genèse à l'Apocalypse. Tous ces livres sont inspirés. La Bible est libre de toute erreur et claire en matière de foi. Nous devons revenir à son enseignement. Les gens sont fatigués des promesses de politiciens. Ceux-ci nous font toujours les mêmes promesses qu'ils ne tiennent pas. Ils promettent ce qu'ils savent qu'ils ne sont pas en mesure de livrer. Des experts de toutes sortes nous proposent autant de panacées pouvant résoudre tous nos problèmes. Il n'y a qu'un problème. Les panacées ne fonctionnent pas. Nous espérons que dans leur désespoir, les gens reviendront vers Dieu. La Bible le dit. Versets 3 et 4. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. C'est le début du grand ministère de Samuel. Israël s'était enlisé dans l'idolâtrie. Le peuple s'était détourné du vrai Dieu vivant. Ils avaient perdu tous leurs combats et ils étaient découragés. Ils commencèrent à gémir après Dieu. Nous aussi, nous avons besoin de revenir vers Dieu. Les gens ont un vide intérieur à combler, tout comme l'enfant prodigue que nous retrouvons dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. Ces gens sont las de la nourriture de pourceaux que leur offre le monde, et ils désirent de nouveau l'abondance de la maison de leur père. Bien, le chemin de retour passe par la parole de Dieu, où nous avons cet ordre de nous repentir, de nous détourner de l'idolâtrie et de nous tourner vers le seul vrai Dieu, celui qui est le Tout-Puissant, le Véritable, celui qui a la puissance de nous délivrer. Versets 5 et 6. Samuel dit, « Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. C'est en confessant nos péchés que nous revenons à Dieu. Samuel est non seulement un prophète, mais il est aussi juge en Israël. Notez que le peuple n'a pas utilisé une méthode pour revenir à Dieu. Samuel a prié pour lui et les Israélites ont confessé leurs péchés. Ce qu'il nous faut, chers amis, c'est revenir à Dieu en confessant nos péchés. Nous devons nous examiner à la lumière de la parole de Dieu. Lorsque nous nous voyons tels que nous voyons que nous sommes privés de la gloire de Dieu, car nous sommes tous pécheurs. Romains chapitre 3, verset 23. Et le sang de son Fils Jésus nous purifie de tout péché, nous dit l'évangéliste Jean dans sa première épître, chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Revenons à notre texte. 1 Samuel, chapitre 7, versets 8 à 12. Et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins, et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins, et les battirent jusqu'au dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il l'appela du nom d'Ébénézer, en disant, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » La pierre rappelait le passé et le présent, et indiquait ce que pourrait être l'avenir. Est-ce que nous nous rappelons les bienfaits de Dieu pour avoir confiance qu'il complétera le travail qu'il a commencé en nous? David se rappelait les bontés de l'Éternel. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Le psaume 107, versets 1 et 2. Revenons à notre texte. Verset 13. Ainsi les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Depuis ce temps, les Philistins ne furent jamais un ennemi aussi puissant que dans le passé. Versets 15 à 17. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah, et il jugeait Israël dans tous ces lieux. Puis, il revenait à Rama, où était sa maison. Et là, il jugeait Israël, et il y bâtit un autel à l'Éternel. Samuel fut juge et prophète en Israël. Débutons la lecture du 8e chapitre, 1 Samuel, chapitre 8, verset 1er. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Samuel transmet ses fonctions de juge à ses fils. Il fait la même erreur qu'Élie. Tout comme Élie, Samuel n'a pas réussi avec ses fils, malgré qu'il fût un homme de Dieu. Versets 2 et 3. Son fils premier-né se nommait Joël, et le second Abija. Ils étaient juges à Beer-Sheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Nous voyons tout cela dans nos églises, d'excellents parents chrétiens dont les enfants choisissent une autre voie, parfois une voie de débauché. Versets 4 et 5. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama, et lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Votre conduite sert-elle de prétexte aux rebelles contre Dieu? la conduite des fils de Samuel sert de prétexte à ceux qui rejettent Dieu et qui désirent un roi, qu'un autre vienne régner sur eux. Versets 6 et 7. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Dieu réconforte Samuel, car la conduite de ses fils sert de prétexte aux ennemis de Dieu. L'Éternel explique à Samuel que ce n'est pas lui qu'il rejette, mais leur Créateur. Ils ne veulent plus que Dieu règne sur eux. Ensuite, il les avertit des conséquences d'établir une monarchie. Il leur dit quel sera le prix à payer. Ils devront faire le service militaire et il fera des servantes de leurs filles. Ils devront donner une portion des produits et des revenus de leurs terres au roi. Finalement, Dieu refusera de les écouter lorsqu'ils crieront à lui. Versets 19 à 22. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. « Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. » Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, « Écoute leur voix, et établis un roi sur eux. » Et Samuel dit aux hommes d'Israël, « Allez-vous-en chacun dans sa ville. » Le peuple va obtenir ce qu'il demande. Dieu va le leur accorder un roi. Ce qui fut vrai du temps de Moïse le fut encore à cette occasion. Il leur accorda ce qu'ils demandaient. Puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Le psaume 106, verset 15. Dans ce verset, le mot hébreu traduit « corps » peut aussi être traduit « personne » ou « âme ». Désormais, Dieu communiquera avec le roi indirectement. Il se servira des prophètes. La suite des livres de Samuel se résume bien par ce texte tiré de Osée, chapitre 13, verset 11. « Je t'ai donné un roi dans ma colère, je te l'ôterai dans ma fureur. » Oui, chers amis, tant que nous ne sommes pas revenus à Dieu, nous sommes dans l'état de ce peuple. Une manière peut-être moins apparente, mais nous aussi, nous avons dilapidé nos capacités et notre temps, et nous sommes égarés et coupables. Pourtant, le repos et le bonheur existent dans la présence de Dieu. Alors pourquoi ce peuple n'a-t-il pu trouver le bonheur en Dieu? Pourquoi est-ce que nous ne trouvons pas le bonheur et la paix en Dieu? À cause du péché, parce que nous voulons rester loin de lui. Il faut revenir sans délai vers Dieu. La question se pose, comment venir à Dieu? Que faut-il lui apporter? La réponse est merveilleuse. Venez à Dieu tel que vous êtes. Il vous accueille sans condition. Il est prêt à vous recevoir dans sa joie et par Jésus-Christ vous couvrir de sa justice. Il n'y a qu'un mot pour résumer ce retour vers Dieu. Repentance. Repens-toi et tourne-toi vers lui. Abandonne les idoles de ton cœur et attache-toi au seul Dieu vivant et véritable, Jésus le Christ. Chers amis, prochaine émission, chapitre 9, verset 1er à chapitre 10, verset 27.
Merci, Régent. Je suis toute triste à la pensée que le peuple de Dieu a rejeté le Seigneur en demandant un roi du temps de Samuel. Et ce qui m'attriste dans tout ça, c'est vraiment que l'homme n'a pas changé. On est encore porté à se choisir toutes sortes d'idoles qui remplacent Dieu dans nos vies. Heureusement, à l'église que je fréquente, et je suis certaine que c'est le cas dans plusieurs autres églises, on entend prêcher à ce sujet. On est averti de toutes les idoles qui risquent de remplacer Dieu dans notre vie, ce qui fait réellement de la peine à Dieu. Nos idoles peuvent être des personnes qu'on admire ou simplement des activités qu'on préfère plutôt que de passer du temps dans la présence de Dieu. Je pense qu'un piège qui nous guette, c'est la télé. C'est si facile de peser sur un petit bouton et de se faire divertir, même parfois par de bonnes émissions. Un conférencier des États-Unis est venu prêcher à notre église il y a quelques mois, puis il disait qu'on est plus souvent porté à fermer notre Bible pour regarder la télé que d'éteindre notre télé pour lire notre Bible. Et je pense qu'il a raison. Le soir où il a prêché ce message, quand je suis retournée à la maison et que j'ai pris mon petit goûter habituel avant de me coucher, j'étais sur le point d'allumer la télé pour regarder les nouvelles, quand soudain une petite voix à l'intérieur m'a dit « Caro, n'aimerais-tu pas prendre ton petit goûter avec moi dans ma présence? » Et je l'ai fait. J'ai mangé dans le calme de mon logement, seul avec le Seigneur. Et simplement parce que j'avais choisi de passer ce temps avec lui, il m'a béni. Il a rempli mon cœur de joie en me permettant de ressentir sa présence. Et je sais qu'il est toujours présent, mais ce soir-là, je pouvais goûter à sa présence pleinement. Tout ça pour dire que Dieu veut régner dans notre cœur. Un jour, j'ai entendu un homme dire qu'il y a un vide dans le cœur de l'homme que seul Dieu peut combler. Un autre a dit qu'il y a un trône dans notre cœur et que nous devrions détrôner tout ce qu'il y a sur ce trône pour laisser toute la place à Dieu, qui est en plein droit d'y régner en tout temps. Que Dieu nous pardonne tous les moments où on ne le laisse pas entrer en communion avec nous. Il est toujours prêt à le faire. Mon ami, as-tu déjà été dans la présence de Dieu? As-tu déjà eu des moments d'intimité avec lui, tellement profonds que tu avais les larmes aux yeux tellement tu étais ému? Dieu veut que tu passes du temps avec lui. Aussi, c'est un privilège qu'il accorde à tous ses enfants qui le veulent bien. Es-tu un enfant de Dieu? Dans l'Évangile de Jean, au premier chapitre, Jésus est appelé la parole et la lumière. Et au 12e verset, il est écrit qu'à tous ceux qui ont reçu la parole, qui est Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mon ami, crois-tu en Jésus? Crois-tu qu'il est venu sur cette terre pour payer la dette de tes péchés en mourant sur la croix, en subissant ton châtiment à ta place? Il a tout accompli à la croix. Et maintenant, il t'appelle à te repentir, à le recevoir comme sauveur et Seigneur. Veux-tu le faire? Demande-lui de te pardonner. Demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. Et tu vas entrer dans la présence de Dieu.
Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours parole par poste.
Qu'est-ce qu'on apprend, Régent, dans des études bibliques par correspondance?
Dans la série radiophonique À travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel.
Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long?
Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondues à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire.
Alors, on n'a pas besoin d'autres livres?
La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule.
Pour en faire la correction,
parce que les gens pourront suivre cette série.
Ah, c'est pas compliqué.
Très simple.
J'ai vraiment le goût de m'inscrire.
Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone
1-877-LESPOIR ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel
www.radioespoir.ca. Adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Au revoir.
À demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.